C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzy. Auteur Victor Hugo, 1802-1885. Français, d'éducation catholique, fils de général, pair de France, sénateur de la République, académicien français. De droite puis de gauche, avec cette constante que, même de droite, il a toujours été contre la peine de mort, ce qui était bien rare de son temps. Hétérosexuel, œuvre Les Misérables, 1862. Personnage Gavroche, 1820-1832. Adaptations nombreuses au cinéma, à la télévision, en comédie musicale. Le premier film est américain et date de 1909. Le premier film français, par Albert Capellani, date de 1913. On peut y noter, dans le rôle d'Éponine, la sœur de Gavroche, Mistinguette. Victor Hugo, qui aimait bien ajouter des mots au dictionnaire, je dois dire que c'est une des choses qui fait le plus plaisir quand on est écrivain, aimait bien aussi jouer à l'accusé, c'est bon pour la publicité, de laquelle il n'a jamais été rassasié. C'est ainsi qu'on écrit un poème intitulé « Réponse à un acte d'accusation » quand on n'a pas vraiment été mis en accusation. Comme il n'était pas non plus modeste, voici ce qu'il y écrit. « Je fis souffler un vent révolutionnaire, je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire, plus de mots sénateur, plus de mots roturier, je fis une tempête au fond de l'encrier. Tous ces tigres, les uns, les cites et les dasses n'étaient que des toutous auprès de mes audaces. Je bondis hors du cercle et brisais le compas, je nommais le cochon par son nom, pourquoi pas ?» Hugo savait que la grande célébrité ne s'obtient qu'en enfonçant des clous. 6 ans plus tard, dans Les Misérables, il laisse entendre que c'est lui qui a le premier importé le mot « gamin » dans un livre littéraire, livre d'ailleurs très bon, Claude Gueux en 1834. C'est très possible. Le mot n'avait pas été d'emploi populaire à son apparition, puisque on le trouve dans l'encyclopédie en 1765, désignant très simplement un jeune aide-verrier. Son triomphe littéraire, le mot « gamin » le doit réellement à Hugo. Dans Les Misérables, comme il fait souvent, comme le font les très bons écrivains débordants d'idées, il y a tout un chapitre de généralité sur le type du gamin. C'est dans le tome 3, livre 1er, intitulé « Paris étudié dans son atome ». Cet atome de Paris, c'est donc le gamin. Il y a des passages enchanteurs dans ces pages sentencieuses et allègres, pareil à des marteaux de plumes. Après avoir bien facetté, poli et fait briller le type, Hugo le réduit au personnage, et voici Gavroche dans la première caractérisation qu'il en donne et qu'il est malheureux. « Il a le cœur absolument sombre et vide », écrit-il. Hugo publie son roman sous le Second Empire. Non seulement son travail consistait alors à discréditer Napoléon III en le comparant à son oncle, mais le duc de Reichstadt était mort. Et il me semble que ce qu'il fait dans Les Misérables, c'est aussi qu'il invente un fils métaphorique à Napoléon. Qui est ce gamin malheureux, le fils physique des Thénardier, qui meurt lors d'une insurrection à l'âge d'11 ou 12 ans? Qui est Gavroche? Pour en parler, je reçois Henri Sépi, professeur de littérature française du 19e à la Sorbonne Nouvelle, qui a récemment publié dans la Pléiade chez Gallimard une nouvelle édition des Misérables avec Dominique Monconduit. Henri Sépi, à quoi ressemble physiquement Gavroche?
Le personnage tel qu'il apparaît, tel qu'il est caractérisé à proprement parler, figure au chapitre 13. C'est-à-dire, 12 chapitres se sont écoulés avant qu'il n'apparaisse véritablement. Il se dessine là avec plus ou moins de netteté, à la fois au physique comme au moral. Et il est vrai que, si l'on devait le caractériser physiquement, on aurait du mal à se départir de toute l'imagerie qui s'est accumulée dans nos esprits depuis la publication des Misérables et depuis, finalement, l'édition illustrée qui paraît en 1865, l'édition des 200, et dans laquelle figurent en effet 200 dessins de Brion, gravés par Yon et Berrichon. Et on voit apparaître là un type, une figure de Gavroche, un jeune enfant, plutôt robuste, droit, assez fier, dans une tenue qui est une tenue du gamin des rues, très très typique en effet, donc la blouse, tantôt la chemise, tantôt la blouse, la casquette qui finira par porter son nom, le pantalon ample, et parfois pieds nus, parfois en sabots, parfois en chaussures de fortune, bref, un personnage qui se mêle un peu à l'indifférencié de la foule des anonymes, et qui peut très vite prendre relief. Et c'est ce qui le caractérise, me semble-t-il. Il ressemble, en somme, et Hugo le dit assez bien, il ressemble à une force qui est là, latente, en puissance, et qui, à tout moment, peut prendre du relief, s'inscrire dans un tempo un peu accéléré, voire furioso, et devenir finalement une véritable explosion.
Il y a un fait qu'on ne sait pas, je crois, par le roman, mais par un dessin ultérieur de Hugo, c'est qu'il a les cheveux longs.
Oui.
Ce qui est aussi un signe de classe sociale, non ?
Absolument, oui, oui, il a les cheveux longs. Alors, il y a plusieurs dessins de Victor Hugo, dont celui qui figure sur la boîte de la nouvelle édition de la Pléiade. Nous avons choisi, en effet, ce portrait d'un Gavroche à 11 ans, rieur, et d'un rire qui mêle, bien sûr, la mélancolie et la joie, la jovialité, comme dit Hugo, c'est le mot qu'il emploie, et une certaine forme de mélancolie. Il y a cette tristesse, en effet, mais voyez, c'est cette mélancolie qui est une image du monde et qui le reflète, et dans laquelle il s'inscrit. Il est aussi ce personnage, je dirais, de la tristesse générale d'une époque dont Hugo dresse le tableau à travers lui.
C'est donc le fils des Thénardier, il a des frères et des sœurs, la plus fameuse étant bien sûr Cosette, et d'une certaine façon, les Thénardier ont bien fait de l'abandonner, car il n'a rien acquis de leur méchanceté. Et ça, d'ailleurs, c'est une chose qui fait que Zola n'aurait pas pu créer le personnage de Hugo,
oui,
parce qu'il est très
absolument
déterministe et pas Hugo.
Absolument. Et là, je crois que vous mettez le point sur un aspect essentiel dans la filiation chez Hugo, dans ce roman en particulier, mais dans d'autres livres d'Hugo, c'est l'idée que nous ne sommes pas déterminés fondamentalement par le milieu dans lequel nous venons au monde, dans le milieu dans lequel nous sommes élevés. Il y a une sorte de, et Gavroche l'illustre parfaitement, une sorte de rupture. Et Hugo le dit très très clairement, il dit finalement le fil des filiations a été rompu. Et Gavroche suit son destin, est un être libre, d'ailleurs c'est le mot qui le caractérise le mieux, je pense que c'est un des termes qui d'emblée le caractérise, lui donne son identité, c'est un être de liberté, et de ce fait, il n'est plus assujetti aux conditions qui déterminent la vie familiale, en l'occurrence la vie des Thénardier qui deviendront les Jondrette à des fins naturellement criminelles.
Alors Hugo s'est intéressé, on le sait, en particulier par les choses vues à ces personnages de gamins. On en voit passer quelques exemples dans les choses vues. On voit aussi dans les châtiments un exemple tout à fait authentique d'un jeune garçon tué de balles dans la tête au moment du coup d'État Louis-Napoléon. Donc c'est d'autre part, le personnage du gamin, même s'il n'avait pas tout à fait ce nom, était à la mode depuis plusieurs années. J'ai reçu dans cette émission Dominique de Fonréau qui nous parlait de la liberté guidant le peuple de Delacroix, où apparaît au premier plan.
Absolument.
Après Gavroche, en quelque
absolument,
sorte. Est-ce qu'on
oui
sait si Hugo l'a vu, ce tableau?
Oui, enfin, en tout cas, c'est un tableau qu'il connaît, il y a à l'évidence là, un souvenir de cette image qui est, je crois, dans tous les esprits, de ce gamin, d'une douzaine d'années peut-être, qui escorte de près cette allégorie de la liberté. Mais lui n'est pas une allégorie, c'est très intéressant, parce que vous avez des personnages types qui entourent cette figure, et cet enfant, un peu isolé, tenant ce pistolet, allant à l'assaut, pour ainsi dire, montant à la barricade, ce personnage n'est pas une allégorie. Il est véritablement l'émanation, l'expression de quelque chose qui, pour Hugo, devient peut-être la conscience même du peuple. Il est la conscience du peuple, c'est-à-dire encore une conscience d'enfant. Mais une conscience d'enfant qui a grandi, qui a vieilli, qui a battu le pavé, qui a souffert. Et c'est tout ce qui fait, aux yeux de Victor Hugo, sans doute, le prix du peuple, à ce moment-là, de son écriture des Misérables.
Gavroche vit, comme on sait ou pas, dans l'éléphant de la Bastille, qui était une maquette géante d'une statue qui avait été projetée par Napoléon. À noter, comme vous le signalez tout à l'heure, que c'est là qu'on sait qu'il est costaud, parce que Hugo écrit qu'il y rentre avec une singulière vigueur.
Oui.
Il entre dans son ventre, et je ne veux pas faire de psychanalyse facile, mais enfin, je crois qu'il y a quand même cette idée de Gavroche, un peu le fils de Napoléon, d'une certaine façon, c'est-à-dire, d'ailleurs, Hugo, à un certain moment dans le livre, dit que le temps de Napoléon, c'est-à-dire de l'homme providentiel, est passé, qu'on est passé à l'homme-peuple, et Gavroche en est l'enfant.
Voilà, je pense que c'est cela. Enfin, je pense que c'est une lecture qui n'est pas forcée du tout, qui me paraît tout à fait opportune, pertinente. En effet, on peut lire, à travers la figure, le personnage de Gavroche, une allégorie politique, en vérité, une allégorie politique, comme sait les faire Hugo, c'est-à-dire toujours très très vivace, très très contrasté, parfois contradictoire, avec ce poids de l'existentiel qui n'est jamais oublié et qui fait que les personnages ont leur centre de gravité. Et je trouve que c'est aussi l'une des caractéristiques du génie d'écrivain d'Hugo, c'est d'avoir su créer des personnages qui vont naturellement durer et se perpétuer dans la mémoire collective et qui ont cependant ce poids existentiel qui les rend finalement contemporains de leur temps, qui fait qu'ils font corps avec l'histoire.
Et Gavroche, c'est aussi une forme d'incarnation de Paris. Il vit dans la rue c'est sa véritable habitation, et d'ailleurs quand il sort de son éléphant, il dit « je rentre dans la rue ».
C'est cela. Oui, la rue, c'est son lieu. Enfin, c'est la définition même du gamin de Paris. Vous faisiez allusion tout à l'heure, en effet, à Claude Gueux, qui est donc ce récit de 1834, dans lequel, en effet, Claude, à un moment de sa confession, avoue avoir été un gamin des rues. Hein. Donc, c'est quasiment à la fin du récit, gamin des rues. Et en fait, c'est cela, le gamin. Et Gavroche en est l'expression la plus pure, la plus originale. Le gamin, c'est celui qui vit dans la rue. Et la rue devient un lieu où tout arrive. C'est-à-dire où finalement le monde prend forme, prend corps, fait sens. Et il n'y a pas de vie intime, entre guillemets, de Gavroche. Et il n'y a pas d'intériorité de Gavroche. Il a des moments de méditation, des moments de recueillement. Mais jamais Hugo nous dit ce qu'il sent, ce qu'il vit, etc. Tout est dans l'extériorité. C'est-à-dire tout est dans la force, finalement, dans la capacité à transformer le monde, fût-ce au prix de la subversion, de la révolution, et il sera naturellement un des artisans de cette révolution.
Est-ce que on sait comment Hugo a formé le nom du personnage ?
Le manuscrit, dans la version initiale, commencé en 1845 et interrompu en 1848, fait apparaître le nom de Chavroche. Bon, Chavroche. Et ensuite, lorsqu'il reprend le texte pendant l'exil, il le transforme progressivement en Gavroche. Donc, en transformant cette syllabe suintante d'attaque peut-être un peu trop molle en une consonne plus forte, la gutturale est plus forte, rythme un peu le nom, entraîne donc le personnage peut-être dans une sorte d'appétit nouveau de l'existence, dans une vision, je dirais, peut-être plus conquérante aussi des choses. Il subit moins. Bon, alors c'est une vision que j'ai, qui est naturellement à vérifier, peut-être même à discuter, mais il me semble que dans la genèse de ce nom, c'est très difficile d'expliquer les raisons qui ont présidé à ce choix définitif, final, mais il y a peut-être cela, une question qui relève de l'oreille, du rythme de la phrase, et du rythme même du personnage, en tant qu'il est marqué en effet par un indicatif sonore. Le personnage entre aussi en scène comme un nom, il est un nom. Et ce nom Gavroche, qui n'est naturellement pas un patronyme, qui peut être un surnom, qui est le nom du gamin des rues, a aussi cette vertu de mordre un peu dans le réel, de mordre un peu dans les choses.
Est-ce que Hugo, qui aimait bien les calembours, est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait pu à un moment donné se dire que Gavroche c'est le gars aussi, comme avec ce vieux suffixe médiéval comme dans la basoche, enfin de toute façon on ne saura jamais rien de tout ça.
Oui, mais... voilà, je pense que en tout cas pour ce qui est en effet, vous avez raison, pour ce qui est de la terminaison, il est vrai qu'on peut penser à la basoche et à tout ce qui tourne autour de cette communauté, des colliers, hein, plutôt, pour reprendre le mot qu'Hugo emploie dans Notre-Dame de Paris, puisqu'il a déjà préfiguré un petit peu cette famille d'individus à la fois scolarisés, déscolarisés, rentrant dans le rang et rebelles à toute autorité. Bon,
ce qui me frappe dans Gavroche, c'est qu'il est dans un état social, à la fois d'enfance et d'impuissance. Il est d'ailleurs à noter que je crois que c'est probablement une des premières fois que le mot social, dans l'acception contemporaine, apparaît dans un roman littéraire. Et cette impuissance, il s'en défend beaucoup par le rire. Vous disiez que vous aviez choisi le dessin de Gavroche riant par Hugo pour la boîte de votre Pléiade.
Oui.
Il se défend beaucoup par le rire de cette impuissance.
Oui, c'est ça. C'est une manière de réagir, effectivement, à cette espèce d'inertie de ce que Hugo appelle, d'un mot qu'il faudra effectivement éclairer, la fatalité. C'est-à-dire ce que vous désignez tout à l'heure comme cette impuissance sociale. En effet, et c'est ça, véritablement, je crois, la misère. Hein, ce qui distingue la misère de la pauvreté, au sens... ce n'est pas simplement un critère économique, ça l'est, certes, bien sûr, mais c'est aussi l'idée que le misérable est celui qui voit toute chance de... toute possibilité d'accès à un autre monde, à un autre univers que le sien, fermé. Et il y a donc ce sentiment d'impuissance, ce sentiment de pesanteur, d'impuissance, qui l'enlise dans cette situation, qui finit par l'absorber totalement, et finalement par le réifier. Et on voit bien que c'est le cas notamment de la clique des scélérats qui entourent Jondrette, bon, et qui décide à un moment donné d'en finir avec Monsieur Leblanc, c'est-à-dire Jean Valjean. Bon. Mais en fait, Gavroche, lui, se défend de cela. Et c'est encore un des points qui le désolidarise profondément de ses géniteurs, hein, et de ce que ses géniteurs auraient pu effectivement lui transmettre. Il est totalement dans la réinvention perpétuelle de soi. Et je trouve que c'est aussi un des traits typiques du génie d'Hugo, d'avoir su inventer ce personnage qui à tout moment surprend, sans à aucun instant le rendre incohérent, le rendre invraisemblable. Il est tout le temps lui-même en étant un autre. Et je trouve que c'est véritablement une réussite de ce point de vue. C'est un personnage qui ne se ressemble pas vraiment, voyez,
hein. Et, je crois que les Parisiens s'en sont pas rendus compte, mais qu'il y a une statue de Gavroche dans Paris, c'est le génie de la Bastille.
Le génie de la Bastille, oui.
Il est aussi chansonnier. Gavroche, il se défend aussi par la chanson.
Absolument.
Il en chante beaucoup, oui. dans le cours du roman, comme on sait, et il meurt en chantant.
C'est un poète, si vous voulez. Je crois que le gamin des rues ne va pas sans la poésie des rues. Et Hugo est très très attentif à cela. Il a toujours été effectivement intéressé, fasciné par tout ce qui pouvait venir de l'extérieur, comme ça, des limites de la grande ville, hein. Donc il y a des pages magnifiques, hein, sur la banlieue, sur ces zones frontalières. Hugo inaugure là le régime de l'écriture moderne. Il préfigure ce que Baudelaire va sans doute, de son côté, mais avec d'autres moyens et dans des visées différentes, proposé dans le Spleen de Paris.
Je ne dirais pas qu'un jugement littéraire de la part de Hugo en empêchant, quand il empêche Gavroche de dire c'est la faute à Rousseau, puisque c'est le moment où il meurt, mais d'ailleurs c'est un moment prodigieux littérairement. Là, c'est une scène de ballet, Gavroche évitant les balles et se faisant tuer.
C'est très très beau, c'est une très belle scène, et je repensais en le relisant avant de venir, je repensais à ce poème qui s'intitule « Une mort héroïque » et qui met en scène un jeune bouffon, Fanciullo, qui est donc un enfant, et qui, dit Baudelaire, en interprétant sa pièce, son drame devant le prince, bouffonne la mort. Et cette expression « bouffonner la mort » me semble convenir assez bien à cette chorégraphie effectivement très 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 élégante et funèbre de Gavroche devant la barricade.
À propos de chansons, nous allons entendre Maurice Chevalier chanter Gavroche, et c'est donc une chanson de 1940.
J'ai l'impression de parler à cœur déployé d'un ami de toujours, qui n'aurait jamais déçu mon admiration. Toute mon enfance s'est passée en pleine pépinière de Gavroche, dans la rue Julien-Lacroix, qui relie la rue de Ménilmontant à la rue de Belleville. Où voulez-vous être mieux placé pour les voir évoluer, se fâcher, travailler, se dévouer, éclater de rire? Oh, il faut avoir bourlingué par le monde entier. Compagnon de misère, allez dire à ma mère que je ne la verrai plus, je suis un enfant, vous m'entendez? Que je ne la verrai plus, je suis un enfant perdu. Nous étions 20 ou 30 brigands dans une bande, tout habillés de blanc à la mode des, vous m'entendez? Tout habillé de blanc à la mode des marchands. La première folerie que je fis dans ma vie, c'est d'avoir goupillé la bourse d'un, vous m'entendez? C'est d'avoir goupillé la bourse d'un curé.
Henri Sépi, ce personnage de Gavroche est, je crois, très mythifié par Hugo. Il y a d'ailleurs une phrase au début où il dit « De quelle argile est-il fait de la première fange venue? Une poignée de boue, un souffle, et voilà Adam. » Et il dit encore « Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme, c'était un étrange gamin fait. » Et cette entreprise de mythification, se remarque probablement aussi au fait que la barricade où Gavroche meurt n'a pas existé dans la vie matérielle et que Hugo l'a inventée.
Oui, alors c'est effectivement une construction, vous avez parfaitement raison, ce moment final, pour ainsi dire,
Peut-être expliquer à quel moment, parce que finalement nous en parlons en le sachant de l'un et l'autre, mais peut-être que tout le monde ne sait pas.
Donc nous sommes effectivement en juin, le 6 juin 1832, au moment effectivement où la barricade est dressée, où la troupe va donner l'assaut. Ce moment est intense, hein, la résistance a été longue, et puis vient un moment où l'on sent en effet que les forces vont faillir.
Et c'est une émeute populaire.
C'est une émeute, hein, c'est une émeute qui conduit effectivement les jeunes gens qui tiennent la barricade, les jeunes gens de l'ABC, donc qui forment une phalange révolutionnaire, enfin donc favorable aux libertés, favorable à un certain nombre de d'acquis, qui donc poussent ces jeunes gens à tenir bon face à l'assaut de la troupe. Et à ce moment-là, Gavroche est abattu puisqu'il va chercher les balles tombées de l'autre côté de la barricade, perdues par les soldats. Et donc, comme il n'y a plus de munitions du côté de son camp, voilà, des insurgés, il va donc tâcher de rapporter cette provende. Et il se fait abattre à ce moment-là. Et au même moment, évidemment, donc dans cette construction qui est ordonnée par les lois de la fiction, quasiment au même moment, dans une espèce de montage parallèle, Hugo met en scène les deux frères de Gavroche. Et ils entendent en effet les donations de l'assaut. Et c'est une scène incroyable où un jeune enfant bourgeois donc est là devant le bassin des cygnes avec son père, et son père entend la détonation, entend le gronder donc la rébellion, et il dit vite rentrons, etc. Et l'enfant abandonne sa brioche aux cygnes, et les deux enfants naturellement disputent aux cygnes la brioche, et donc c'est le moment de la mort de Gavroche, hein. Et Hugo choisit donc de donner à ses deux frères, qui restent finalement seuls et orphelins, eh bien les voilà à nouveau seuls. Mais ce que démontre Hugo, c'est que la race des Gavroche n'est pas perdue, puisqu'en fait la leçon a bien été comprise. Au moment où l'aîné des deux frères donne la brioche au plus jeune, il dit à celui-ci, tiens, colle-toi ça dans le fusil, hein. C'est la formule de Gavroche, c'est-à-dire que ça passe, hein, ça circule. Voilà, Gavroche mort.
C'est l'éternelle revanche contre Marie-Antoinette.
Absolument,
les brioches.
C'est ça. Oui, c'est aussi ça.
On peut dire, je crois, c'est un mot dont on abuse souvent, mais je ne crois pas en abuser à propos des Misérables, que c'est une épopée. Et si c'est le cas, Henri Seppi, est-ce que ça ne serait pas, littérairement, la première épopée avec un enfant qui est une place aussi centrale?
Oui, qui est une place centrale, oui. Alors, il faut s'entendre quand même sur la désignation épopée, etc.
Bon, Bien sûr.
Hugo le dit, il a raison, il dit c'est une épopée. Bon, c'est un drame, c'est une épopée, il utilise des termes qui font tantôt effectivement valoir la dimension dramatique et le drame, romantique, hein, coloré par les feux du romantisme, et tantôt l'épopée dans ce qu'elle peut avoir en effet ici de collectif et de guerrier finalement. Hein, c'est cette dimension héroïque qu'il n'abandonne pas, et depuis l'exil en tout cas, depuis au moins les châtiments, il est clair que le grand projet d'Hugo, c'est de continuer à penser ne serait-ce que la possibilité d'une écriture héroïque qui donnerait donc aux petits, comme il dit, la capacité de surmonter, de surplomber les grands. C'est déjà un peu, d'une certaine manière, un peu l'objectif de La Légende des siècles, première série. Mais avec la reprise des Misérables, dans les années 60, au moment où il remet quand même sur le métier ce roman abandonné, en 48, bon, il y a un peu retravaillé depuis. Cependant, il crée quelque chose qui, effectivement, tourne le roman, tourne la narration du côté épique. Ça, c'est indiscutable.
Ça existait déjà dans Hernani, enfin, il n'a pas...
Oui, bien sûr. Bon, on a dans l'écriture hugolienne d'avant l'exil, évidemment, un certain nombre de...
Ce que je veux dire, c'est que cette place de l'enfant, qui nous paraît aujourd'hui assez naturelle, parce que le XXe siècle est passé par là, c'était peut-être beaucoup plus original au moment où le roman a paru, que maintenant, les enfants n'avaient pas d'existence dans la vie des familles, ni dans la littérature.
Tout à fait. Et de plus, il n'y avait pas nécessairement d'obligation des parents à l'égard des enfants. D'où effectivement dans le roman hugolien, à plusieurs reprises, l'insistance portée sur l'abandon des enfants. N'oublions pas quand même que Quasimodo, dans Notre-Dame de Paris, est un enfant abandonné.
C'est-à-dire dans L'Homme qui rit aussi.
Et dans L'Homme qui rit aussi, bien sûr. Et donc on a ce souci effectivement de l'enfance qui... Alors je crois que c'est un souci réel d'Hugo, une attention particulière du personnage, je dirais de l'écrivain cette fois, à l'égard des enfants, une écoute particulière, souvent mise en scène, notamment dans les contemplations, à un moment où se redessine pour lui la possibilité, sinon même la nécessité, de réécouter la voix enfantine de sa fille Léopoldine.
L'art d'être grand-père date de quand ?
Alors, c'est beaucoup plus tardif. C'est des poèmes qui sont beaucoup plus tardifs. Donc ça vient après. Vraiment, c'est une autre séquence. Mais là, véritablement, se joue quelque chose, me semble-t-il. Entre 55, 56, donc la charnière, disons, pour dire les choses simplement, des contemplations et Les Misérables, 60-62, se joue quelque chose en effet autour de l'enfance. Je crois que, et il n'est pas le seul, beaucoup d'écrivains pensent la création sous l'angle de l'enfance. Enfin,
qui ça?
Par exemple, Baudelaire, vous voyez.
Mais Baudelaire détestait les enfants.
Ah oui, certainement, il est considéré comme des êtres absolument incroyables, capables de tout, enfin bref. Bon, il les met en scène d'ailleurs dans des situations parfois très 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 drôles, mais cependant, le génie artistique pour lui, c'est quand même l'enfance retrouvée à volonté, comme il dit.
Henri Sépi, il y a beaucoup de religiosité dans Les Misérables, ce qui n'est peut-être pas sa meilleure part. Dieu et l'explication par Dieu sont partout. Je me demande d'ailleurs si Hugo n'est pas devenu archidéiste en exil parce qu'il ne voyait plus personne et s'il n'a pas remplacé les dîners en ville par l'hôtel, mais enfin je suis peut-être un peu sacrilège. Est-ce que, dans cet ordre-là, Gavroche ne serait pas un David plus vraisemblable, c'est-à-dire un David qui ne réussit pas à tuer Goliath parce que le pouvoir gagne toujours?
Oui, bien sûr. Il y a ce réalisme-là. Il y a ce réalisme-là, en effet, vous avez parfaitement raison. En dépit de cette dimension. Alors, vous parlez de religiosité, en effet, c'est le cas par moment. On voit très bien dans la correspondance, par exemple, avec son éditeur Lacroix, que l'insistance mise par Hugo sur la nécessité notamment de conserver les chapitres consacrés à la vie recluse, à la vie conventuelle, etc., alors que Lacroix voulait s'en départir, jugeant la chose un peu indigeste, Hugo dit non, on garde ça, c'est très important. Bon, et on comprend qu'il y a là peut-être une façon détournée, certes, et parfois un petit peu compliqué pour le lecteur d'aujourd'hui, une façon de penser la solitude, de penser l'exil, de penser sa condition, sa propre condition dans ce qu'il n'est pas et dans ce qu'il refuse profondément, c'est-à-dire l'assujettissement d'un être à un dogme. Je pense que la religion hugolienne, elle est inscrite, alors vous parlez de déisme en effet, elle est d'abord effectivement une problématique liée à la nature, à la vision peut-être du sujet, du moi dans la nature, à une conception d'un dieu sans église, en dehors du dogme, en dehors même de la révélation. Et lorsqu'il écrit au terme de la grande préface philosophique intitulé aussi Commencement d'un livre, qui est ce grand texte écrit à l'époque des Misérables, lorsqu'il écrit Je crois en Dieu, il faut bien comprendre que ce Dieu dont il s'agit, c'est plutôt l'infini. C'est l'infini.
Henri Sépi, que vous a appris le personnage de Gavroche?
Écoutez, moi c'est un personnage qui, comment dire, m'apprend toujours parce qu'il me déroute. C'est un personnage qui danse sur un pied, puis sur un autre, qui va à cloche-pied, qui passe d'un côté de l'autre des frontières, tantôt ici, tantôt là. Et je trouve que il nous apprend une chose peut-être, c'est que, étant lui-même l'amoureux, je dirais, l'inconditionnel de la liberté, il nous apprend à penser l'être libre, la condition libre, comme quelque chose qui doit effectivement s'inventer, mais toujours dans une espèce de douleur et avec un rire mêlé de larmes. Il sait cela. Il y a une joie profonde à être libre et en même temps un prix à payer. Et ce prix peut être extrêmement lourd lorsque, notamment, le pouvoir exerce son autorité par les armes.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, chargée de programme Mérine Moneghetti, prise de son Olivier Dupré.
Ma vie, le paradis acquis.
Dans un instant, Victor Massé de l'Épinay et le rayon BD.
Un grand jeudi. Tous les jours, paradis. De l'autre côté. De la rue, mon paradis perdu. Soudain, quel est ce rayon éblouissant, élu parmi ces